Voilà, bonsoir à chacun. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ces chants. On va sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans les Proverbes. Proverbes chapitre 16 et le verset 20. Est-ce que vous désirez trouver le bonheur? Je pense que c'est le désir de chacun. Eh bien, on va voir une façon, parce qu'il y a plusieurs façons. La Bible nous parle de plusieurs moyens de trouver le bonheur, mais qui ça se ramène toujours à la même chose. Et on va le voir ensemble ce soir, un de ces moyens. Proverbes chapitre 16, verset 20, il est dit ceci: « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Amen. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Voilà un des moyens que la Bible nous enseigne pour trouver le bonheur. Et ce soir, je voudrais qu'on s'arrête effectivement, qu'on réfléchisse effectivement sur trois choses en particulier. Et en réfléchissant sur ces choses-là, en mettant toute notre attention dessus, en les méditant, eh bien, la Bible nous fait cette promesse qu'on va trouver le bonheur. Vous voulez savoir quelle est la première? Eh bien, la première se trouve dans Luc au chapitre 21. Et même pour ceux qui ne veulent pas le savoir, eh bien, ils ne vont pas avoir le choix ce soir. Luc chapitre 21 nous dit ceci, verset 34. Il s'agit des paroles de Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui est en train en fait de prophétiser sur la fin des temps. Et juste avant, il leur raconte tous les signes qui vont accompagner la fin des temps. Et il leur dit quand même ceci au verset 34 du chapitre 21. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Les premières choses qu'on va voir, ce sont les choses à venir, les choses qui vont arriver. Et quand il s'agit de la bouche de Jésus, c'est-à-dire il y a 2000 ans en arrière, ça va paraître des choses lointaines. Mais quand nous lisons ces choses, la description de ce qui se passe, quand nous lisons les mots que Dieu emploie, que Jésus emploie pour nous décrire ce qui va arriver, on a l'impression d'allumer la télévision, simplement. Et de regarder les informations. Parce que si on regarde, par exemple, au verset 10, voilà, j'ai retrouvé verset 10 du même chapitre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous voyez, on a l'impression simplement d'allumer la télévision, de voir les informations. Et ce que j'ai fait hier, j'ai regardé très rapidement les informations, et je me suis rendu compte que ce n'est pas en regardant les informations qu'on trouve le bonheur, parce qu'on trouve tout l'inverse. Si on va pas bien et qu'on regarde la télévision, on n'est pas encouragé, on est d'accord? Parce que, par exemple, j'ai vu hier qu'il parlait de ce qui était arrivé en Italie, à Venise, la ville où il y a l'eau qui passe partout, et bien là, il a été recouvert aux trois quarts d'eau. Trois quarts d'eau, inondé d'eau. Si on regarde la fin octobre, là, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines en arrière, la tempête Sandy qui a ravagé la ville de New York et tout l'État de New York même. Et quand on voit les dégâts qui ont été causés, quand on voit les morts qui sont arrivés suite à cet événement, les milliards de dollars de dégâts, on se rend compte que Jésus, il n'avait pas tort quand il parlait de ces choses-là. Quand on voit les bruits de guerre, quand on voit la Syrie où ça ne va toujours pas, quand on voit Israël où ça commence à se tirer les uns sur les autres encore, avec la Palestine, toujours ces problèmes. On entend des bruits de guerre, on entend des prémices de guerre. Mais Jésus, il nous a dit quelque chose face à ces choses à venir. Et ces choses à venir, elles sont toujours à venir. Nous les vivons présentement, mais nous ne vivons pas tout. Et face à ces choses à venir, il nous a dit simplement, ne vous laissez pas appesantir par les excès du manger et du boire. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à mettre le poids On a tendance à mettre l'accent sur certains péchés qui frappent le regard. Par exemple, il y a un péché qui est d'actualité également. Quand on allume les informations, on entend le mariage homosexuel. Et on a tendance à mettre un poids de culpabilité, tendance à mettre en relief ce péché-là. Et alors que Jésus, quand il nous parle des choses à venir, il nous dit surtout, faites attention. Il ne nous dit pas, faites attention à l'homosexualité. Même s'il faut faire attention à savoir ce que la Bible dit, etc., avoir la connaissance. Mais il dit, faites attention aux excès du manger et du boire. Vous voyez quand même la différence entre Jésus et nous? Nous, on aurait tendance à dire, il faut se préserver, il faut qu'on manifeste, il faut qu'on dise quelque chose. Jésus dit non, occupez-vous de vous, occupez-vous d'être prêt, être debout quand le Fils de l'homme va revenir. Quand vous voyez les choses à venir, quand vous voyez ces choses qui vont arriver, occupez-vous d'être prêt, veillez et priez en tout temps, afin d'avoir la force. Le secret, c'est de veiller et de prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de profiter de ce que Dieu nous a donné, arrêter de profiter de la vie, dans ce sens de, il faut pas construire une maison, il faut pas faire de projet, parce que les choses vont arriver, Jésus l'a prophétisé la fin des temps, alors il faut s'arrêter de vivre, il faut faire des, comme certains ont fait à un moment donné, remplir leur réserve de nourriture et s'attendre au pire. Il y en a qui créent, vous savez qu'il y en a qui créent des abris anti-atomiques, etc., sous leur maison, afin de pouvoir échapper si jamais il y a une guerre atomique. Mais Jésus, il n'est pas dans cette optique-là. Il nous dit, face aux choses à venir, face à ces choses-là, eh bien, il y a un choix à faire. Soit on se laisse envahir par la peur, on laisse l'inquiétude nous submerger et nous faire faire toutes sortes de choses, soit on veille et on prie afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Et comment on va échapper? Est-ce que ça veut dire qu'on... Seule notre maison va être épargnée alors que toutes les autres vont être détruites par une catastrophe naturelle? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Ça, c'est déjà arrivé, mais est-ce que c'est systématique? Non. Échapper à ces choses-là, c'est échapper à la crainte, échapper à la peur que ça apporte. Et j'ai cette pensée simplement qu'il faut se faire un trésor dans le ciel et qu'à cet endroit-là, où la teigne et la rouille ne peuvent pas le détruire, eh bien rien, les catastrophes naturelles peuvent rien faire dans le trésor qu'on aura dans le ciel. C'est ce trésor-là qu'il faut viser. Merci Seigneur pour les bénédictions qu'on a sur cette terre. Merci Seigneur pour les maisons. J'ai une maison, j'ai pu faire construire. Merci Seigneur. Mais je m'attache pas à ma maison. Et si un jour elle doit être dynamitée parce qu'il y a une météorite qui tombe dessus, bon, je préférerais ne pas être dedans, bien sûr, mais si c'est la volonté de Dieu. Peu importe. Parce que c'est pas important. Si je perds ma maison, si je perds mes biens sur cette terre. Et ce qui est dangereux, c'est la personne qui n'a pas cette assurance. Ce qui est dangereux, c'est que la personne qui n'a pas cette assurance, elle va travailler peut-être toute sa vie. Et j'en connais des personnes qui sont comme ça, qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir faire bâtir, pour pouvoir offrir à leurs enfants les meilleures études, pour pouvoir faire toutes sortes de choses, des grands projets. Et puis, il suffit d'un tremblement de terre, il suffit d'un cyclone, il suffit de quoi que ce soit, un événement imprévisible. Et tout est réduit à néant. La maison disparaît. Ou il y a un éboulement qui fait qu'elle n'a plus aucune valeur. On ne peut même plus la revendre et on ne peut même plus y habiter, etc. Il y a tellement de façons. Les banques peuvent faire faillite et tout notre argent peut couler avec elle. Ce que je sais... Et ce en quoi j'ai confiance, c'est que Dieu, il prend soin de nous. Et que s'il s'occupe des petits oiseaux, il va s'occuper de nous. S'il sait le nombre de nos cheveux, comme le disait Jésus, il va savoir s'occuper de nous parfaitement. Mais voilà, face aux choses à venir, je dois pas laisser j'ai le choix de laisser la crainte ou la peur guider ma vie, ou alors de faire confiance totalement. Et comment je vais avoir confiance totalement en Dieu? En veillant et priant simplement. Ça, c'est la première chose. Les choses à venir, je dois faire confiance pour pouvoir paraître debout quand le Fils de l'homme viendra. À lui seul la gloire. Et Romains 8, verset 38 nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses, on va le lire ensemble. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. mais que toutes ces choses, face à l'amour de Dieu, eh bien, c'est vide. Ça n'a aucun pouvoir. Romains 8, verset 38, on le connaît bien. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça, c'est notre assurance. Quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit le passé, quel que soit ton passé, quel que soit tes épreuves, rien, nos mondes, ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Amen. Deuxième chose, elle se trouve dans Luc, et le verset, chapitre 16 et le verset 10. Luc chapitre 16 et le verset 10. On va lire juste ce verset-là. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Deuxième chose sur laquelle on va réfléchir et qui va nous amener à faire un choix également, c'est les petites choses, les moindres choses, les choses qu'on trouve négligeables, les choses que personne ne voit, ne nous voit faire. Souvent, quand on parle de petites choses, ce sont les choses qui ne ramènent pas beaucoup d'honneur. Passer le balai, par exemple, ça ne ramène pas beaucoup d'honneur. C'est une petite chose. Vous êtes d'accord? On n'applaudit pas à grands bras ou à grands cris les personnes qui passent le balai, alors qu'on devrait. Mais la société est ainsi faite qu'on ne met pas en valeur ces choses-là. Les choses que personne ne voit. Et il y a justement cet exemple. Un prédicateur, il avait une femme de ménage, et cette femme de ménage, elle est venue le voir un jour. Et elle lui a dit, vous savez, monsieur, il y a un jour où j'ai compris vraiment que j'étais converti. Avant, j'avais compris quelques versets de la Bible, j'avais compris quelques aspects, mais il y a un jour où j'ai compris que j'étais vraiment converti. C'est le jour où, au lieu de faire le tour du paillasson, je me suis mis à balayer sous le paillasson, alors que personne ne regardait. Vous savez, il y en a qui l'ont déjà fait, moi je l'ai fait, je l'avoue, et je me repens, quand j'étais étudiant. Mais c'était que ma chambre, donc c'était... Voilà. Bref, ça m'est déjà arrivé, je comprends. De balayer, et puis on soulève le tapis, hop, hop, hop. Il y en a qui rigolent, mais je pense qu'on en a beaucoup à l'avoir fait. Mais je me suis repenti, vous inquiétez pas. Ne me recadrez pas avec ce terre accusateur, là. Mais le jour où cette dame, elle a pris conscience que c'était important, pas pour le prédicateur, il n'allait jamais le savoir. Il n'a jamais su, à part le jour où elle lui a dit. Mais le jour où cette dame, elle a pris conscience que Dieu, il était en train de regarder quand on était tout seul. Quand personne ne nous voit, il y a au moins Dieu qui nous voit. Et dans ces moments-là, comment on agit? Dans ces moments-là, comment on doit agir? Jésus, il nous le dit, soyez fidèles dans les petites choses. Face aux petites choses, il faut être fidèle. Deuxième type de petites choses, c'est les choses que personne ne veut faire. Les choses que personne ne veut faire, les choses qu'on trouve négligeables. Il y a cet exemple tout simple, mais sortez une pièce d'un puzzle de 100 pièces, justement. On se dit, mais c'est rien, c'est un tout petit puzzle, une toute petite pièce. Qu'il y en ait une de plus ou de moins, c'est pas grave. Mais vous faites le puzzle et à la fin, il vous manque une pièce. Eh bien, la seule chose que vous allez voir, c'est ce trou en plein milieu du puzzle. Parce que la moindre petite chose, c'est important. Et pour Dieu, c'est de la même façon. Il n'y a rien qui est négligeable. Rien dans tout ce que nous pouvons faire. Rien dans tout ce que nous pouvons dire. Rien dans tout ce que nous pouvons même montrer par nos actes. Il n'y a rien qui est négligeable. Et comme une petite parole peut faire beaucoup de bien, une petite parole peut faire beaucoup de mal. Des fois, un simple regard peut faire beaucoup de mal. Voilà pourquoi on a besoin d'être fidèle dans les moindres choses. Et quand on apprend à être fidèle quand personne ne nous voit, quand on apprend à être fidèle dans ces choses que tout le monde néglige, alors Dieu, il peut nous confier de plus grandes choses. Et Jésus nous a donné cet exemple parfait. Toute sa vie est un exemple d'une personne qui s'occupe des choses que les autres personnes ne s'occupent pas, qui va voir les personnes que les autres personnes ne vont pas voir, et, ou que même les autres personnes méprisent. Jésus est un exemple parfait de toutes ces choses. Jésus, il a lavé le pied des disciples. C'était le travail du serviteur. Eh bien, c'est lui qui a commencé à laver les pieds des disciples. Jésus, c'est celui qui est venu accueillir les enfants, alors que les disciples eux-mêmes, ils se rendaient pas compte, mais ils voulaient pas qu'ils aient un contact avec Jésus. Jésus, il a dit, non, non, laissez-les venir à moi. Et il a même accueilli les enfants, il a prié pour eux. Jésus, il a même préparé la nourriture pour ses disciples, alors quand il est ressuscité, alors qu'il, lors de la pêche miraculeuse, alors qu'ils avaient le filet rempli de poissons, il leur a préparé quand même la nourriture. Jésus, vous voyez, alors c'était le rôle du serviteur aussi de préparer la nourriture. Jésus, ça ne l'a pas arrêté. Jésus, il a aimé les personnes que les pharisiens méprisaient. Il est allé manger avec les personnes que personne ne voulait voir, justement. Il a pardonné à la femme adultère. Il ne l'a pas condamnée. Jésus, il nous montre constamment que les choses que l'on néglige, les choses que l'on méprise, elles ont du prix à ses yeux. Et c'est important d'être sérieux dans ces choses-là. C'est important de faire attention à ce que l'on dit, c'est important de faire attention à nos paroles, à nos actes, etc. Jésus, sur la croix, il nous a montré encore une fois son amour parfait, alors qu'il a dit cette parole, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pour certains, le pardon, c'est un détail, et ils essayent de marcher dans leur vie sans pardonner, en pensant que le temps va effacer les fautes, et va effacer la douleur, en pensant que l'eau va couler sous les ponts et que ça va passer, mais non. C'est quelque chose de grand. Ça paraît petit, mais un mot, dire pardon à quelqu'un, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Et regardez l'exemple de 1 Timothée 4, verset 11. C'est l'exemple de Timothée. Et il a un encouragement que Paul lui écrit. 1 Timothée 4, verset 11. Je le lis pour vous. « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. » Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Et on va aller au verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Pour Timothée, les petites choses, c'était peut-être sa jeunesse, c'était peut-être sa foi, c'était peut-être son amour. C'était des petites choses, et l'apôtre Paul il lui dit, mais c'est des petites choses, mais encourage, il a encouragé, persévère, et ce que tu as entendu de moi, garde-le, et médite-le, persévère dans ces petites choses, sois fidèle dans ces petites choses. Et le résultat, il est là, c'est que tu vas faire des progrès si tu t'attaches, si tu ne les négliges pas, si tu ne les méprises pas. Voilà pourquoi le choix que l'on a devant ces choses, devant les petites choses, il est simple. Soit on les méprise, soit on les néglige, soit on est sérieux. Et Dieu va bénir, Dieu va nous faire grandir, Dieu va nous faire aller de l'avant. Et je dirais même plus, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il est important. Pour eux, peut-être la foi c'est une petite chose. Pour eux, l'amour de Dieu c'est une petite chose. Mais Dieu voudrait dire ce soir, inquiète-toi de ces choses-là. Ne les méprise pas, ne les néglige pas. Néglige pas ces choses-là, parce qu'elles sont importantes. Ne néglige pas ce si grand amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils Jésus à la croix. Ne méprise pas le sang qui a coulé pour toi pour te purifier de tous tes péchés. Mais viens à lui et demande-lui pardon. Et tu vas voir, d'un simple mot, il suffit de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je réalise que je t'ai fait le mal et le Seigneur il dit, je te pardonne. C'est tout. C'est un petit mot qui a de grandes conséquences dans notre vie. Et c'est comme ça que le Seigneur procède. Si on est fidèle dans les petites choses, alors il y a le progrès, alors on grandit, alors on a la bénédiction de Dieu sur notre vie, alors il y a la vie éternelle qui s'ouvre devant nous. Et non seulement il y a la vie éternelle future, mais déjà sur la terre. Sur la terre, on connaît la vie. La Bible, elle dit qu'on est appelé à régner dans la vie. On est appelé à régner dans la vie. Déjà sur cette terre, à ne plus être esclave du péché, mais à être vainqueur de notre vieille nature en marchant avec Christ. Et la troisième chose, elle se trouve dans Luc, le chapitre 18 et le verset 22. Après les choses à venir, après les petites choses, la troisième chose sur laquelle on va réfléchir pour trouver le bonheur, elle se trouve dans Luc, chapitre 18, verset 22. Alors, je ne lis pas tout le contexte, mais vous le connaissez, c'est l'histoire du jeune homme riche qui va voir Jésus. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et voici ce que Jésus lui répond au verset 22. « Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Amen. » Troisième chose, c'est la chose manquante. La chose manquante. Et je vais vous donner une série de questions et vous allez me répondre. Parce que vous connaissez la Bible tellement bien, vous allez voir, il n'y a pas de piège. Est-ce que cet homme, ce jeune homme riche, il était zélé ? Souvenez-vous du contexte. Est-ce qu'il était zélé ? Oui. Il a accouru vers Jésus. Ce jeune homme, il est venu en courant vers Jésus. C'est comme si ce soir, quelqu'un était venu à la réunion, je crois que vous l'avez tous fait, en courant. Tellement vous vouliez entendre la parole de Dieu, tellement vous vouliez chanter les cantiques du Seigneur. C'est la même manière. Était-il humble ? La Bible nous dit qu'il s'est jeté à genoux, malgré la foule qui entourait Jésus. Et vous savez que quand Jésus se déplaçait, il y avait toute une foule qui se déplaçait avec lui. Et lui, malgré la foule, malgré même peut-être les pharisiens qui étaient d'un côté, qui regardaient de loin, il est venu se jeter à genoux aux pieds du Jésus. Donc il avait une certaine forme d'humilité. Quelle question le préoccupait ? Pourquoi il est venu voir Jésus ? Est-ce que c'est pour être guéri, par exemple ? Même s'il y en a qui sont venus pour ça. Qu'est-ce qu'il préoccupait, lui ? La vie éternelle. Que dois-je faire ? Pour avoir la vie éternelle. C'était ça la préoccupation de ce jeune homme. Et qui c'est qu'il est allé voir ? Est-ce qu'il est allé voir le grand sacrificateur ? Est-ce qu'il est allé voir Hérode, le roi de l'époque ? Est-ce qu'il est allé voir les sages grecs, même philosophes de l'époque ? Non. Il est venu voir Jésus. Et comment il appelle Jésus ? Il appelle Jésus bon maître. Ça veut dire qu'il a un respect pour Jésus, il s'attend à ce que Jésus lui enseigne quelque chose. Quand on appelle quelqu'un maître, ça veut dire qu'on l'estime et qu'on se prétend être son disciple aussi, d'une certaine manière. Il y avait tout ça que ça englobe. Est-ce que depuis, ça faisait longtemps qu'il obéissait à Dieu ? La Bible nous dit que c'est depuis sa jeunesse qu'il essaye de toutes ses forces d'obéir à la loi, aux 10 commandements, etc. Est-ce qu'aux yeux des autres personnes qui étaient là, même peut-être aux yeux des disciples, ce jeune homme, il avait l'air bon, il avait l'air d'être un bon chrétien, quelqu'un qui allait progresser, faire des progrès avec Dieu ? Si on s'arrête à cette partie de l'histoire, on peut dire que oui. On est d'accord. D'après ce qu'on voit, il semble qu'il soit sur le bon chemin, il semble qu'il soit sur la bonne route, mais Jésus va lui dire une simple phrase, il te manque une chose. Il y a une chose qui est manquante là dans toute ta vie. Dernière question, est-ce que c'est mal d'être riche ? Parce qu'on peut se poser la question avec cette histoire. Puisque Jésus lui dit, mais va vendre tous tes biens et donne-les aux pauvres et puis viens et suis-moi. Est-ce que c'est mal d'être riche ? Est-ce que c'est le fait qu'il soit riche qui l'empêche de s'avancer ? D'une certaine manière, oui, parce que il aime sa richesse plus que Dieu, simplement. Mais sinon, c'est pas parce qu'on est riche qu'on fait le mal aux yeux de Dieu. D'ailleurs, on a beaucoup parlé des talents, la parabole des talents. Il y en a un qui a eu 10 talents. Et c'est pas celui qui a mal réagi. Celui qui a eu 10 talents, c'est-à-dire celui qui a eu beaucoup d'argent entre les mains, mais c'est celui qui en a fait valoir beaucoup. Alors que celui qui en a eu un, eh bien, c'est le seul qui l'a enterré. Donc ce n'est pas le principe, la Bible nous enseigne d'ailleurs que ce n'est pas le fait d'être riche ou pauvre qui fait quoi que ce soit, ce n'est pas le fait de faire toutes sortes d'efforts, comme il a fait, je me suis efforcé depuis ma jeunesse, ça fait des années que j'essaie d'obéir à ta loi. Ce n'est pas ça qui a du poids aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'ils viennent s'humilier dans la présence de Dieu, ce n'est pas le fait même de venir à l'église et de venir écouter la parole de Dieu qui fait qu'il y a quoi que ce soit qui va changer dans nos vies. C'est le fait de mettre Dieu en premier qui va changer tout. Et la chose manquante pour ce jeune homme, c'était de mettre Dieu en premier. Tout à l'heure, on a eu un témoignage d'une personne qui a mis Dieu en premier à un moment donné et qui a été bénie. Et ce soir, je voudrais simplement vous partager un témoignage que j'ai vécu, quelque chose qui m'a touché profondément, alors que Dieu, dans une période très, très précise, c'était avant que je me fiance, Dieu m'a dit, de façon dans sa parole, par un verset, il m'a dit en quelque sorte, « Mets-moi en premier, mets-moi en premier, il faut qu'il n'y ait personne d'autre que moi dans ta vie en premier. » Et d'ailleurs, ça s'est présenté comme une question dans mon esprit. Vous savez que ma femme s'appelle Laure, et la question c'était celle-ci, est-ce que tu es prêt à arrêter toute chose avec Laure pour me suivre? Est-ce que tu es prêt à renoncer à elle pour me suivre? Et je vous avoue que je n'ai pas répondu un grand oui directement. Je vous avoue que ça a dû travailler, ça a dû faire son effet, cette parole dans mon cœur. Et d'ailleurs, je le dis souvent, et ça fait rire les gens, parce que le verset que Dieu m'a donné, il est très clair pour moi, c'est dans Job, chapitre 22, il est dit ceci, jette l'or dans la poussière, et le Tout-Puissant sera ton or. Et moi je l'ai pris dans tous les sens du terme, mais vous inquiétez pas, j'ai fait aucun mal à ma femme, enfin à ma fiancée à l'époque, je ne suis pas venu pousser la poussière, non. Loin de moi l'idée de faire ça, c'était pas du tout mon intention. Mais c'était spirituellement parlant. Est-ce que tu es prêt à renoncer à elle? Si je te le demandais. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a eu, pour ceux qui étaient à la réunion des anciens, on a eu cette image d'Abraham. Abraham qui avait eu la promesse d'avoir un fils, il a eu enfin dans sa vieillesse. Et Dieu lui dit, maintenant tu vas m'offrir ton fils. Et Abraham, il est allé, confiant. Moi, je suis épaté par la foi d'Abraham. Parce qu'il est parti, et non seulement il est parti, mais quand il a laissé ses serviteurs, il a dit, on va aller là-bas, offrir un sacrifice, et on va revenir. Il n'a pas dit, je vais revenir. Il savait déjà qu'il allait revenir avec son fils. Parce qu'il avait la foi en Dieu, la foi dans ce Dieu qui ressuscite. Et il était prêt à aller jusqu'au bout, parce qu'il savait que même s'il allait égorger son fils, Dieu pouvait le ressusciter. Mais Dieu, il lui a montré que ce n'était pas du tout son plan. Il voulait simplement le mettre à l'épreuve. Et Dieu, souvent, il nous met à l'épreuve. Et il a mis à l'épreuve ce jeune homme riche, avec une parole. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Il a mis à l'épreuve par cette parole-là. Et Abraham, lui, il a bien réagi. Et moi, au bout d'un moment, j'ai bien réagi. Ça a été dur, mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux, eh bien, je suis prêt à le faire. Même si ça, si c'est comme m'arracher le cœur, eh bien, je suis prêt à le faire, si c'est ce que tu me demandes. Et au moment où j'ai prononcé ces paroles, enfin, dans les jours qui ont suivi, eh bien, tout s'est déclenché, on va dire. On a pu se fiancer, on a pu même se marier, avoir une famille, etc., etc. Mais je savais maintenant que c'était Dieu que je mettais en premier, qu'il n'y avait pas ces sentiments qui allaient au-delà de ce qui devait aller, mais que c'était Dieu qu'on mettait d'abord. Et ce jeune homme riche, alors que Jésus lui dit cette parole qui le met à nu devant son péché, ce jeune homme riche, il a eu la mauvaise réaction, parce qu'il n'a pas laissé la parole de Dieu faire son effet en lui. Il n'a pas laissé le Seigneur Jésus avoir l'influence sur sa vie. Et vous savez, souvent on croit que le Seigneur lui a demandé de dilapider tout son argent, qu'il n'ait plus rien, de vider son compte en banque et puis qu'il le suive. Et moi, j'ai expérimenté le Seigneur de telle sorte que je sais que quand on lui donne tout, Dieu nous le rend au centuple. Et quand on lui donne quelque chose, quand on renonce à quelque chose pour sa gloire, Dieu nous le redonne et d'une façon encore meilleure que ce qu'on avait imaginé ou pensé. Parce que c'est le moyen de procéder de notre Seigneur. Donc face à cette chose manquante, le jeune homme riche, il avait le choix de prendre la parole du Seigneur, de s'attacher à cette parole, de croire que la vie éternelle, c'était de pas sa richesse, c'était pas s'accrocher à ces choses-là, c'était pas s'accrocher à sa religion, c'était pas s'accrocher à toutes ces choses qu'il avait pu faire depuis son enfance. La vie éternelle, c'était simplement de donner à Dieu tout ce qu'on pensait le plus cher pour nous. Et Dieu nous le redonne, mais il le remet à la bonne place. C'est ça, c'est tout. Dieu ne veut pas qu'on renonce à tout. Il ne veut pas qu'on abandonne père et mère, qu'on laisse tomber notre famille. Dieu, il veut qu'on lui donne notre famille. Il veut qu'on lui donne, je dirais même, notre argent. Symboliquement. Pour qu'après, il nous le redonne et que nous, on soit transformés. Transformés et qu'on agisse et qu'on soit généreux, qu'on puisse donner pour les personnes qui sont défavorisées, qu'on puisse aider ceux qui sont dans la pauvreté, etc., etc. C'est tout simplement ce que Jésus lui a dit. Mais ce jeune homme, il a été stérile. Il a été étanche à tout ce que Jésus lui a dit. Et vous savez, c'est une des paroles les plus tristes. Quand on lit la suite, lorsqu'il entendit ces paroles, au verset 23, il devint tout triste, car il était très riche. Et il y a du sous-entendu dans cette phrase. C'est pas parce qu'il était très riche qu'il devint tout triste. C'est parce qu'il devait mettre Dieu avant sa richesse et qu'il voulait pas le faire qu'il a été tout triste. Il s'est dit, tout ce que j'ai fait à présent, ça m'a servi à rien. Et là, je vais rester toute ma vie dans le vide. Toute ma vie dans une vie totalement inutile. Parce que je saurais que je suis à côté de la volonté de Dieu. Alors que Dieu lui demandait simplement de faire ce choix. Face à la chose manquante, est-ce que tu vas accepter de renoncer à elle, de la donner au Seigneur, et qu'il te la redonne, mais mise à la bonne place? Ou est-ce que tu vas partir tout triste? C'est le même choix qu'il nous propose ce soir. Et je voudrais simplement finir ce message avec ce verset qui est dans Deutéronome 30. Dieu nous donne ce soir encore toujours le choix. Je mets devant toi le chemin de la mort et du mal, ou le chemin de la vie et du bien. Et plus loin, il est dit, choisis la vie afin que tu vives. Vous savez, un père, il va essayer de donner tous les conseils à son enfant. Il va essayer de lui donner le maximum d'informations pour que, s'il part en voyage, ça se passe bien. Et Dieu, il fait de la même façon envers nous. Il nous montre qu'il y a le bien et la vie, la mort et le mal. Mais il nous incite quand même, il nous dit la bonne direction, elle est claire, c'est la vie. Que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Eh bien, simplement, viens au Seigneur. Si peut-être cette question, elle te taraude le cœur, elle te taraude l'esprit, viens au Seigneur Jésus et abandonne ces choses. Abandonne déjà ton péché, mais abandonne aussi cette chose qui est là et que tu considères plus grand que tout le reste. Abandonne-la au pied du Seigneur et tu verras que Dieu va te bénir parce que Dieu est bon. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes toujours le choix. Et c'est à cause de ton amour, Seigneur, que nous avons le choix. Seigneur, tu nous as pas créés comme des robots, mais tu nous donnes la liberté de choisir. Tu nous donnes la liberté de faire nos propres choix, Seigneur. Et quel amour il y a de plus grand que celui-là? Merci parce que tu nous as montré ton amour. Tu nous as manifesté ton amour à la croix, Seigneur. Tu étais donné pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, réaliser ce soir que nous avons encore le choix de la saisir dans notre cœur. Nous avons le choix d'aller dans la bonne direction, d'emprunter le chemin de la vie ou le chemin de la mort, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, encore dans cette soirée, pour nous qui te connaissons, renouveler notre choix envers toi, renouveler notre décision de te suivre, Seigneur, renouveler notre décision d'avoir personne que nous aimons plus que toi sur cette terre, renouveler notre décision d'avoir rien, aucun bien matériel, aucune chose terrestre qui soit au-delà de l'amour que l'on te porte, Seigneur. Merci de bénir également ces personnes qui ne te connaissent pas encore et qui ont besoin de faire ce choix d'abandonner leurs péchés, d'abandonner leur ancienne vie et de découvrir cette vie nouvelle que tu veux leur donner, Seigneur. Merci parce que à la croix tu as pris leurs péchés, à la croix tu as pris leurs souffrances, à la croix tu as pris leur inquiétude face à l'avenir. Seigneur, et maintenant, pour nous qui te connaissons, nous savons que nous avons la paix et nous savons que nous avons cette assurance avec toi, qu'un jour nos yeux te verront. Quel que soit ce qui peut arriver sur cette terre, nous avons un trésor dans le ciel. Merci pour cette certitude que tu nous mets en nous, Jésus. Mais je te demande, Seigneur, que ça puisse devenir une certitude dans le cœur de ceux qui sont dans l'inquiétude, dans le trouble, dans la peur face à l'avenir. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous appuyer sur ta parole, Seigneur. Tu nous donnes la foi pour croire en ta parole. Et nous ne voulons rien négliger, rien mépriser, rien mettre considéré comme petit, Seigneur. Mais dans tous les moindres faits et gestes, nous voulons être fidèles et sérieux. Merci parce que tu es bon envers nous, Seigneur. Nous voulons te bénir et t'adorer. Nous voulons, Seigneur, saisir encore une fois ton amour, Seigneur, dans cette soirée. Réaliser que toutes ces choses, tous ces choix que tu nous mets devant les yeux, c'est à cause de ton amour. Et que tu nous laisses le choix pour pouvoir accomplir ces choses dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu le fais en nous, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen.